La première disparition de Jérôme Bardini, deuxième fichier. Bardini avait mûri depuis si longtemps son projet qu'il agit comme en hypnose. Sans chapeau, il était obligé de répondre par des sourires ou des signes aux épiciers, à la notairesse, aux gardes champêtres, qui le saluaient pour la dernière fois, et il regrettait d'avoir à donner ce congé vraiment trop personnel à ses fantômes. Par le bourg, puis les champs, il gagna à 6 kilomètres la jeune courbe par laquelle la Seine répète, presque à sa source, la courbe de la Concorde, se déshabilla dans le pré, déjà repéré, laissa ses vêtements sur la berge, comme il l'indiquait à sa femme dans la lettre, pour qu'elle choisît à son gré de le faire passer pour disparu ou pour mort, et plongea. Il nagea avec délice. L'affaire ne serait pas si mauvaise. D'homme devenir poisson. Tout ce qui avait pu rester sur lui du parfum de René s'écoulait déjà sur Paris, remplacé par l'odeur prise au cœur des plateaux de Saint-Germain-la-Feuille. Il s'amusa à contrarier le courant. Il était agréable de refaire ses premiers gestes dans un nouvel élément. Il s'amusa à lui céder, à taquiner la mort, mode de disparition peut-être à cultiver. Il dut sortir de l'eau pour venir prendre dans son portefeuille le petit sac imperméable avec les 2 000 $ qu'il emportait. Dollars économisés un à un depuis 3 ans, comme pour un cadeau de fête, cadeau de sa seconde vie. Ses vêtements étendus avaient de loin sa forme. Il ne s'émut pas trop devant cette dépouille, devant son faux cadavre. Il se félicita d'en avoir fini avec ses 2 boutons à chaînette offerts par Fontrange, avec cette même épingle de cravate offerte par Bélita. Veston et pantalon, qui n'auraient plus chaque jour comme forme l'être pour lequel ils avaient été faits, étaient avachis pour toujours. Il avait là le premier désespoir, la première dépravation que causerait son départ. Il toucha cette étoffe, il toucha ses boutonnières avec un peu de pitié, comme il eût touché la peau, la bouche de Jérôme mort. Il vit les places un peu usées, celles par lesquelles il avait un peu trop appuyé contre sa première vie. Il caressa son coude, si lustré, par lequel il avait pu souvent soutenir cette tête maintenant évadée. Mais on n'embrasse pas son cadavre privé de sa tête. Il replongea, le sac entre les dents. Il aborda l'autre rive en naufragé qui fuit son radeau pour gagner l'île. Dans un de ces saules creux où les Parisiens en vacances croient que se logent les hiboux, il trouva les vêtements cachés voilà 8 jours et la petite valise en cuir dur avec laquelle Wilson se promenait à Paris. Il s'habilla. Malgré lui, il avait pris une allure d'Américain en franchissant la Seine. À croire que c'était l'océan. Vraiment, c'est seulement en Américain qu'on peut se promener incognito parmi les hommes, et dans l'art, la musique, et même, il le constatait, parmi les arbres. Voilà enfin que sa personnalité de Bardini n'apparaissait plus dans ses rapports avec les pommiers, les pruniers. Il n'eût pas été devant des orangers de Marrakech plus tendres, plus neufs. Il les étreignit. Une minute, il fut, non comme s'il avait changé, mais comme si les êtres qui l'environnaient s'étaient changés en arbres. Pourquoi n'était-ce pas l'époque de la floraison? Il eût aimé les fleurs de René, les fleurs de Fontrange. Il goûta leurs fruits, fruits encore verts, fruits toujours amers. Puis vint la seconde métamorphose. Des animaux arrivèrent. Les animaux les plus doux. Des vaches, une ânesse, les femelles des animaux qui soufflèrent dans la crèche, soufflèrent sur le nouveau Bardini, né d'une heure. La vache dont il caressa, l'ânesse dont il embrassa le museau, ne se doutait pas qu'elle était au monde le seul être aimé par lui, le premier animal créé pour lui dans cette nouvelle création. Les idées qui n'étaient pas venues à Adam lui venaient. Monter à califourchon sur la vache, bavarder avec l'ânesse. Une chèvre vint aussi, toute seule, fraîchement créé, se cabrant et coquetant autour de Bardini comme une figurante de revue lâchée à point par le régisseur. On sentait en réserve là-bas, pour l'acte sérieux, les taureaux, les baudets, les boucs. Animaux dont chacun lui offrait un métier nouveau, une vie nouvelle, un cadeau particulier de liberté. Vacher, valet, laboureur, laitier, tout cela il pouvait l'être. Charretier, cavalier, fugue de carrière qui le mena jusqu'au régiment, jusqu'à la guerre, liberté suprême. C'est ainsi d'ailleurs que s'engage à la Légion étrangère celui-là qui se croit le plus libre. Mais déjà, dans ce baiser avec la terre qui prend les trois quarts de leur journée, les bêtes broutaient, dédaigneuses de Bardini. Il s'étendit, coupa une baguette, laissa sans s'en douter une bouffée d'enfance l'emplir au lieu d'une bouffée de liberté, fit un sifflet d'écorce, voulut y graver ses initiales, se rappela qu'il n'en avait plus, se demanda lesquelles il allait désormais choisir, quel nom, quel prénom allait être le sien, et cette voluptueuse incertitude qu'il avait éprouvée à propos des métiers, il la ressentit soudain à propos des noms propres, à propos des pays. Ah non, certes, il ne quittait pas un foyer heureux, une femme jolie, un district riche, pour garder les qualités et défauts des Français, pour s'appeler Durand ou Breton, pour être un spécimen de sagesse antique, défiance, avarice et autres particularités de sa première nation. Enfin, il allait pouvoir être à sa guise, du pays où l'on est loyal, confiant, jeune, prodigue, avoir pour capitale ses villes, Vancouver, Christiania, qui avaient représenté pour lui le voyage. Quand il confondait, mais que n'avait-il pas confondu avec ce second mot, voyage et liberté. Du reste, il s'en moquait. Il formait cette nation à lui tout seul. Un avion passa. Il sourit de ce symbole de la liberté qui allait sur un fil de fer invisible du camp de Romilly au camp de Langres. Il était un des seuls hommes qui ne prisent pas leur liberté dans des cages de fer, comme les aviateurs, les inventeurs. Un martin-pêcheur passa. Il sourit en pensant à son itinéraire invariable, à son âme d'oiseau remontée comme une montre. Il se rappela, enfant, avoir chanté à l'école un hymne à la liberté dans lequel la liberté était la Suisse. Parlons-en des Suisses, aux pas gravés par l'habitude dans les grès des Alpes, aux maisons de bois fixées sur les sommets comme des arches où Noé aurait continué à habiter. Libérés, certes, de Jessier, mais si peu libérés de l'hiver, du protestantisme, de l'altitude. Il se releva. S'étendit à nouveau. N'allait-il bien profiter de la liberté qu'étendue ou assis, malade de liberté? Le soleil encore haut détachait de lui une ombre plus maigre, moins agrémentée que son ombre habituelle. Soleil qui ne marquait plus d'heure pour lui, qui tournait à vide pour un être sans naissance et sans mort. Jamais il n'avait reçu ainsi le crépuscule sans responsabilité, sans devoir. Pourvu seulement que tout ce qu'il avait congédié de sa vie ne reparut pas dans son sommeil, se vengeant justement sur cette part de sa journée qu'il avait à peu près autrefois maintenue libre par ses rêves. Il frémit à l'idée de rêver de l'enfant, des quittances, de la bouteille entamée. Il vit soudain la nuit comme un miroir du passé. Mais on marchait derrière lui. Le premier humain qu'il eût rencontré depuis sa disparition s'arrêtait à quelques mètres et le dévisageait. Une femme. Le sort s'était vraiment davantage mis en frais pour fournir à cet Adam sa première Ève, que ne l'avait fait jadis le Créateur. Cette femme était vêtue de linon rose à revers jonquille, avec bas de soie champagne brute, ombrelle bleue et blanche. Elle avait la beauté de ces femmes que les lycéens s'imaginent les attendre, non à la sortie du lycée, mais à la porte de sortie de l'adolescence. des baccalauréats obtenus pour elle, les classiques acquis pour leurs caresses. Bardini, tout prêt d'ailleurs à pénétrer dans un étage inférieur ou supérieur de la vie, à voir une fille d'aubergiste ou une reine nue, restait étendu, relevant tout juste la tête, comme si cette femme était une visiteuse et non une inconnue. Son immobilité même créait un lien, supposait je ne sais quelle connivence entre elle et lui. La rencontre était bien fortuite, mais comme une rencontre de théâtre entre gens de revue. La femme avait d'ailleurs une taille de théâtre, comme air de l'inconnu, un teint de lait surprenant dans le grand air, des yeux d'un bleu qui semblait fardé, et sur sa bouche, d'un rouge aigu mais naturel, chaque parole était touchée par le sang. C'était Indiana, à laquelle Fontrange avait offert un séjour à la campagne dans un de ses domaines, et qui regardait Bardini du regard méfiant qu'elle posait dans son enfance, près de la prison de Melun, sur les évadés. Elle ne s'y trompait pas. Celui-là en était un. Elle connaissait ses complets encore rêches, trop plats, parce qu'ils ont été non repassés, mais cachés sous des lits ou des piles de bois. Ses ongles trop courts, ses cheveux vieux de la semaine, car on ne s'évadait pas avec la tête rase, mais la veille du coiffeur. Cette moustache d'un jour, le jour passé dans le plafond des cabinets ou dans une des marmites de la buanderie. Elle connaissait ce désœuvrement, cette paresse dans l'herbe des hommes habitués à dormir dans la paille. Il pouvait lui demander le chemin. Pour une fois, elle n'aurait pas à mentir, car elle ne savait ni le nom du village, ni la grande ville la plus proche. Charderet, croyait-elle, ni la province. Tout ce qu'elle pouvait dire, c'est que cette rivière était celle de Melun, la Seine. Qu'il se débrouille avec la Seine, comme les autres. Cette haine instinctive ne l'empêcha d'ailleurs pas de venir vers lui, de son pas naturel. Qu'elle fût dans un champ ou dans un bar, Indiana, sans hésitation, se dirigeait inconsciemment vers l'homme seul qui était là. Il n'y avait pas là amour pour les hommes, mais aimantation. Lui ne bougeait pas, presque déçu par cette aventure trop stylisée, sentant que le destin, quand il semble épouser de trop près vos désirs, est au contraire en train de les ridiculiser et de les détruire. Elle se tint debout une minute près de lui. C'était la première fois qu'elle voyait ainsi de haut un homme. C'est de cette hauteur qu'on voit les poissons dans la rivière. Mais jamais Indiana n'eût supposé qu'un corps humain fût peuplé, et elle ne cherchait guère à deviner les pensées de Bardini. Elle s'assit près de lui, emplissant le champ de son parfum trop connu, d'un parfum d'esclavage, d'une espèce de trèfle bien peu semblable au trèfle du pré lui-même. « Essence de trèfle à quatre feuilles, » disait-elle. Et la première ombre qui sépara du soleil la tête de Bardini libre fut l'ombrelle d'Indiana. Elle se décida enfin à parler. « Ça a été dur de partir ?» Elle posait ainsi cette question sans curiosité, de sa voix usée et brisée. Avec ces mots qu'elle paraissait plutôt réciter que trouver, ses yeux de poupée, elle excitait tous les désirs, impuissants à leur source, qu'excite un automate. Bardini était étonné de l'à-propos de la phrase et en était froissé. On eût dit une de ces apparitions que les romanciers mondains logent au premier tournant du chemin pour les héros qui vont prendre une décision. C'en était stupide. Il ne répondit pas. « Tu es français ? Tu sais parler ?» Elle inclinait son ombrelle quand elle se penchait vers lui, rendant sa tête ensoleillée toutes les fois qu'elle attendait une réponse. Lui hésitait encore à prononcer le premier mot de sa nouvelle langue. Il était malgré tout sensible à ce tutoiement qui le plongeait pour son premier contact avec l'humanité au cœur de l'allégorie. « Va pour le tutoiement. Va pour l'enfance. » « Ton numéro ?» Indiana avait à Melun la manie de demander aux évadés leur numéro. Elle était arrivée à une loi des nombres de l'évasion. Les 21 s'étaient évadés 8 fois pendant son adolescence. C'était le record. Elle eût aimé que celui-là eût son chiffre fatidique. C'était, car elle n'avait pas beaucoup d'imagination, le chiffre 13. Et il lui portait bonheur et malheur. C'est un 13 qu'elle avait essayé de se tuer au champ de course pour embêter Veil. Le jour où on lui avait volé au vestiaire la loutre de Marcel, c'était aussi un 13. Loutre assurait 3 fois son prix. On voyait mal d'ailleurs lequel de ces deux événements était pour elle l'heureux et le malheureux. « Et toi ?» dit Bardini. « Que fais-tu ici ?» Elle attendait de repartir. Une 8aine encore, et elle aurait son mois plein. Aucune liberté à la campagne. Si, à Paris, le barman ne voulait pas de ses robes blanches, ici le fermier lui interdisait de sortir avec les robes rouges à cause des bœufs. Elle s'amusait à aller dans les étables, dès qu'il avait le dos tourné, avec son sweater de cette couleur. Tous les yeux des vaches se tournaient vers elle, mais il y faisait une chaleur ainsi habillée. Le fermier avait des ordres, il l'empêchait de faire des cocktails. Elle avait pourtant tout ce qu'il faut dans une valise. Elle se vengeait. Elle faisait priser le fils, qui avait 12 ans. En voulait-il ? Elle avait aussi de la morphine. Le gamin criait un peu au début pour la piqûre. Maintenant, cela allait. La mère lui soignait ça avec des 4 fleurs. Il se promenait autour des ruches pour laisser croire que c'était les abeilles. Le soleil se couchait, chauffant et dorant jusqu'aux cuisses les jambes d'Indiana, adossées à la pente. Le fermier lui ordonnait de porter des pantalons, mais les abeilles s'étaient posées sur le genou même, attaquant au plus près le squelette, l'une sur le mollet, encore sanglant. Bardini était vexé de cette ironie du sort qui lui offrait, au soir de sa liberté, les suprêmes moyens d'évasion. Il y en avait d'autres, s'il en croyait Indiana. Le gamin, qui était déluré, lui avait appris à manger les joues des truites, à fumer des barbes de maïs. C'était délicieux et pas plus dangereux que le reste. Il la conduisait parfois à la promenade. Elle goûtait à toutes les gommes, elle les suçait. Infiniment meilleure, à l'arbre même. La belladone ne méritait pas sa réputation. Elle en avait mangé et aucun résultat. Les fausses oranges l'intéressaient davantage. Un jour, elle en avait rapporté sa pleine robe, prétendant qu'elle n'y connaissait pas. La fermière les avait jetées. Sa morphine ? Non, le gamin seulement. Et aussi un peu le chien, qui, lui, ne la supportait pas, qui était aussitôt malade. Indiana ne disait pas qu'on l'avait menacée, si elle continuait à se droguer, d'appeler le médecin. Elle redoutait peu les commissaires, les agents, mais à la vue d'un médecin, serait rentrée sous terre, comme s'il n'y avait à punir en ce monde que les attentats à la vie. On voulait la faire coudre. Elle ne savait pas. Elle savait juste un peu tatouer, mais n'avait pas de bonnes aiguilles. La tête du fermier, quand, sur le dos et sur le ventre du fils, il aurait découvert le nom d'Indiana et quelques insultes à son adresse. Non, il n'était pas vrai qu'on puisse enlever un tatouage. Elle avait tout essayé pour celui-là. Qu'il regarde, il n'y avait personne dans la campagne à cette heure. Elle était tatouée au dragon. Bardini avait regardé. Il n'était pas absolument satisfait de cette aventure, de cette fatalité de troisième ordre, de ce symbole périmé du serpent, qui menaçait dès le premier soir de gâter cette nouvelle terre. Indiana était assise face à lui, immobile comme on ne sait quel piège. Cette impression de destin implacable qu'elle donnait au concierge, au sergent de ville, aux habitués de l'American Bar, et même aux Américains, qui repartaient étonnés vers New York de s'être heurtés si durement à tant de velours, il la ressentait péniblement. La liberté ? Mais qu'était-ce donc cette liberté qui le poussait à s'accoler pour jamais à cette femme ? Il s'était retourné. le ventre contre le pré dur, il regardait de côté ce coussin à sa taille, ce coussin d'une chair intermédiaire entre la sienne et celle du néant, fait pour être glissé entre la terre et lui. Elle avait fermé son ombrelle. Tous deux avaient une même couleur, celle des métaux en fusion. Indiana regardait fixement le soleil, qu'elle n'avait vu jusqu'ici dans sa chute, qu'hésitant entre la gauche et la droite de l'arc de triomphe, se donner à la scène. C'était la seule fois où le soleil eût eu à rougir, à dorer, à tiédir la chair froide et blanche d'Indiana. Larve sainte de linon rose, larve, après tout, désirable. Mais impassible avec la nature comme avec tout être. La nature comme si c'eût été un homme, un habitué. Elle déclinait ses politesses, ses invites comme celles d'un homme, déclinait d'un sourcil dédaigneux le miroitement sur la scène comme une offre de miroir, le courant d'air du soir comme le courant du ventilateur, la scène elle-même, tendre et bruyante, comme une copine d'humeur différente. Et tout ce soir, en somme, crépuscule et le reste, comme une consommation. Coucher avec la nature, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Si bien qu'elle ne croisa pas les jambes, se prêtant au soleil, mais détournant de lui la tête, comme de ses amants, gardant sa familiarité pour l'évader, attendant volontiers de lui les pires questions. Car, terrible avec les suiveurs audacieux, elle n'éprouvait aucune pudeur avec les voleurs, les anciens pensionnaires de la maison centrale, les rôdeurs de profession. Comme si la pauvreté, l'astuce, le crime n'étaient pas des attributs de l'âme, mais un sexe, son sexe. Où elle couchait ? Dans une chambre où le régisseur dormait autrefois. La cloison seule séparait de l'étable. Le gamin essayait le matin, pour ne pas la réveiller, de nourrir les vaches avec précaution, de leur apprendre à manger le foin doucement, museler les génisses, les entravait. Mais rien à faire pour museler les coqs et le taureau. Si bien qu'elle se levait, elle aussi, pour aller caresser un petit veau, le premier être qu'Indiana eût caressé d'elle-même, depuis justement un autre petit veau. Il y a 15 ans, dans la ferme près de Melun. S'il y avait dans 15 ans le petit veau de l'âge mûr, la tendresse d'Indiana se serait exercée suffisamment en ce monde. Si elle se soignait, le médecin lui avait ordonné un régime. Elle prenait le soir du lait bourru à l'étable même. Le matin, elle allait à l'abattoir, boire un verre de sang du bœuf qu'on tuait. Le matin, sang, le soir, lait. Une voix d'enfant s'éleva dans la nuit, appelant Indiana. « C'est le gamin qui me cherche, » dit Indiana. « Tous les soirs, il me croit perdu ou noyé et me cherche près de la Seine. » La voix pure répétait le nom d'Indiana. Pas d'écho. Le nom d'Indiana était réservé ce soir aux cordes vocales humaines, interdit aux forêts, aux grottes. La bouche de l'enfant, le soir, avait le privilège du nom d'Indiana. Indiana se leva, et avec cette indifférence si profonde qu'elle semblait une certitude de revoir ce qu'elle quittait, disparut dans la nuit dans la direction opposée à celle de l'enfant. Aucune voix n'appelait Bardini. Tout le recueillement de la vallée, son silence semblait justement être l'écho de cette réserve. La nuit donnait plus nettement encore à son départ une allure d'évasion. Il était à l'heure où les chiens, les gardes-chasse, aboient et tirent vers le passant trop libre. Le mieux était d'aller prendre le train à Nogent, en traversant par Fontrange, et en repassant derrière sa propre maison, car par ici, il tombait dans les forêts de Champagne, et ce n'était pas à Robinson Crusoe qu'il entendait jouer. Les étoiles étaient nées, elles scintillaient. On était obligé de constater, à leur fraîcheur, la jeunesse du monde. Il se sentait, avec sa liberté, devant ce firmament, aussi ridicule qu'un musicien devant la mer avec son violon. Il connaissait mal le ciel, d'ailleurs. Outre l'infini, c'était aussi l'inconnu qu'il voyait là. Aucune de ces étoiles ne pouvait lui être un guide. Et l'ombre, et la solitude, et la liberté suprême, ne purent que le ramener dans le chemin le plus connu de lui, dans l'ornière de sa vie. Il pénétra dans Fontrange par les barrières blanches, poussant à un galop nocturne les poulinières effrayées, que leurs poulains endormis ne suivaient pas. Et une fois dans l'enclos, le hasard apporta sur sa route une série d'objets, de paysages, d'êtres aussi, dont un Bardini plus habile eût esquivé de prendre congé. Le dogue de Fontrange, qui ne le quitta plus, faisant aboyer en supplément tous les chiens ennemis, non des hommes qui rôdent, mais des dogues. La chapelle de Silly, où il s'était marié. La maison du chineur, où René et lui allaient chercher des plats d'étain et des fixés. Les jours où le couple Bardini avait bonne santé, s'estimait, s'adorait, une nostalgie de plats d'étain, doublée de passion pour les Ecce Homo, peints sous verre, le poussait vers ce vieux brocanteur, et tous deux revenaient heureux vers la maison. Elle portant les étains, tout alourdis, lui portant les fixés, tout légers. Même différence de poids, même confiance que dans une grossesse de René. Le ruisseau franchi, il tomba même dans les souvenirs plus anciens. Il venait là pêcher la truite. Un pigeon voyageur ne doit pas se prendre dans ses cercles, ses vols d'enfance. Bardini coupa par le fourré. S'égara, aperçut enfin à travers les branches le ciel où était montée la lune. Il se hâtait, comme le forçat qui traverse les dernières lianes vers le soleil aveuglant. Soudain, sur la lisière même, il hésita. Le sort le mettait en face du tombeau de Bella. Voilà qu'il fallait prendre aussi congé des morts. La lune était à son plein. Cet astre, qui semble si souvent en France écorné, aminci par l'avarice et l'esprit économe, jamais Bardini ne l'avait vu, non seulement aussi rond, mais aussi bombé. La lune semblait vraiment pleine, sur le point de donner à la nuit la nouvelle jeune lune. Jamais aussi lumineuse. Tout le parc s'amusait à jouer, à 10 heures du soir, le jeu de l'ombre et de l'éclat. Seul, au centre du tertre flanqué sur sa droite du grand cormier, la dalle de marbre blanc, entourée à distance de sa chaîne, étincelait sans contraste. Pas un morceau de nuit, pas une poussière même, tant l'air était pur, entre cette dalle et la lune. Bardini se rappelait le jour où elle avait été placée, dans une cérémonie qui ressemblait moins à un enterrement qu'à la pose d'une première pierre. Tout l'édifice ce soir était construit. Bardini admira ses murailles lumineuses, son plafond infini. Autour de cette tombe, plus aucun changement à apporter au monde. Jamais Bardini ne l'avait trouvée à ce point fini, à ce point terminé. Plus rien n'a changé au cri de la chouette, à ce mutisme des bois que nul vent n'atteignait. L'évolution mourait au pied froid de Bella. Le langage de la nuit, le contour des collines, étaient à leur sommet classique. Les groupes de bouleaux, les bosquets de hêtres, les touffes de pins parsemées dans le parc, grâce à ce cercle qu'ils avaient pris depuis la mort de Bella, avaient atteint la perfection. On sentait à chaque élément sa densité suprême. Le fer de la chaîne était pesant, la terre opaque, l'air lumineux. Aucun bruit du monde qui parvint là autrement que par l'écho. Mais on sentait aussi que, dans ces enfers, Bella était seule. La communauté éternelle avec les morts inconnus, la promiscuité éternelle avec les morts célèbres lui était épargnée. Longtemps Bardini resta là, arrêté dans son élan, les yeux fixés sur ce marbre, respirant à peine, comme on observe un spectacle fugitif ou un animal sauvage. Il espionnait ce calme infini en liberté, cette nuit qui, en prenant Bella, avait enfin repris sa virginité de nuit. Le marbre était imperceptiblement incliné, on devinait un coussin sous la tête de Bella. Avec son lourd anneau, alliance de la mort, il semblait une dalle de trésor, de réservoir. La pression parfaite de ce calme sur le monde, de cette ombre, de cette clarté, venait de ce tertre. Voilà le vrai point d'où il fallait prendre le départ, de ce silence sans fièvre, de cette paix sans température. Bardini voulut s'avancer hors du fourré pour venir près de la tombe, pour lire ce nom de Bella, gravé en creux, presque toujours à cette heure comble de la première humidité nocturne. Toute la rosée de la vallée se condensait à minuit en ce seul nom. Mais, comme il écartait le feuillage, de l'autre côté de la tombe, une voix s'éleva. « C'est toi, Richard ?» C'était Fontrange, adossé à l'arbre, dans cette station qu'il attachait par tous les temps, au cours de sa promenade du soir, à la tombe de Bella, et qui croyait reconnaître un garde. Cette voix de vieillard, cet appel féodal, calmèrent Bardini. Il préférait, après tout, à cet émoi qu'il analysait mal, un émoi Walter Scott. Que toute opération de liberté est difficile, pensait-il seulement. Que de gens bien postés, à tous les points où je peux sauter le mur. Tolstoï, dans ce pré tout à l'heure, avec cette fille. Walter Scott maintenant avec l'oncle qui pousse dans la nuit le même défi, le même appel, le même prénom que ses ancêtres à leur adversaire félon. Que toute opération de liberté peut être littéraire. Vais-je avoir à prendre congé du romantisme, du symbolisme, du mallarméisme? Je ne parle même pas des animaux. Tout à l'heure, ce dogue, maintenant cette chouette, qui m'assaille par devant comme un chien pour ramener son bétail. « C'est toi, Frédéric ?» cria Fontrange, qui croyait cette fois reconnaître un braconnier. « Oui, oui, c'est Frédéric, » pensait Bardini. « C'est Barberousse, c'est Cœur de Lion, c'est tout ce que tu voudras. C'est Jules et c'est Prosper, c'est Jean, c'est John, c'est Lane, c'est Eric. » « C'est toi, Jérôme ?» Fontrange passa à la tête de la tombe, vint jusqu'au fourré, chercha comme on cherche le gibier démonté. Celui que ce dernier prénom avait atteint ne put rien voir. Bardini dut attendre une heure encore. Il fallait bien une heure pour que Fontrange, toujours lent, se décidât à quitter, après des visites à peu près également silencieuses, les vivants ou les morts. Quand Fontrange fut redescendu vers le château, Bardini traversa le parc, déboucha au haut du bourg, juste derrière sa maison. C'était là le dernier obstacle. Il le prit de face, il entra. Toutes ces bêtes qui ont disparu quand d'habitude l'évadé revient au foyer vivaient encore, mais elles dormaient. Les serins, la tête cachée, décapitées par le sommeil. Les chats sur le rebord du buffet, où leur ronronnement s'était subitement éteint, aux heures avec l'inconscience. Les chiens sur le paillasson, tous haletaient, pris du mal qui repose. Le robinet de la cuisine était resté ouvert. Les animaux Bardini, pour la première fois, dormaient avec ce bruit consolateur de l'eau, de jardin oriental. Jérôme supporta cette confrontation avec ses petits yeux fermés. Oiseaux et bêtes avaient leurs plumes et leurs poils de nuit, plus lisses, plus brillants, plumes et poils de rêve. Mais la maison, par contre, lui semblait avoir vieilli subitement. Ces carreaux disjoints dans le couloir, cette vitre raccommodée, cette serrure inutilisable depuis 4 ans, il les voyait. Sous sa main, une chaise s'affaissa. Tout croulait ici. Ici et dans ce bas-monde, d'ailleurs. Après un seul après-midi, il retrouvait sa demeure comme on retrouve après 20 ans la maison de son enfance, plus étroite, plus basse, moins enchantée. Il avança. Par la fenêtre, la lune l'éclairait d'un lourd fanal comme un scaphandrier dans le navire qui a sombré. Navire où étaient 2 vivants. Dans la salle à manger, ce n'étaient pas seulement les animaux qui avaient survécu, mais une race plus éphémère encore, les fleurs. Toutes les roses que René avait cueillies hier, et les narcisses et les héliotropes, embaumées du même parfum que Bardini avait aspiré à son lever. Sur la cheminée, ses portraits étaient encore là. Son portrait en communiant, son portrait en soldat. Il se pencha sur eux sans cette fraternité qu'on ressent pour cet être qui a fait de nous un long intérim. Presque tous les 4 ans, la substance de notre corps totalement se renouvelle. Pour cet enfant qui avait communié pour lui, cet homme qui avait pour lui porté le sac complet, plaisanté avec la clé du champ de manœuvre, reçu pour lui une balle dans l'épaule. Il releva la tête, vit dans la glace son portrait en inconnu. Ce portrait, là aussi, lui donna l'idée d'un intérim insupportable. Une mythe volait qui semblait échapper de cet homme nouveau. Il la tua. Par la serrure de la chambre passait un rayon de lumière. Une clé lumineuse immense, la clé de René. Il frappa. « Entrez !» dit René. Elle était assise devant son bureau, en peignoir. Elle écrivait. La lettre par laquelle Bardini lui avait annoncé son départ éternel traînait sur la table. René avait tourné la tête. Elle regardait Bardini d'un regard dur qu'il ne lui connaissait pas. Cette femme qui n'avait jamais été que tendresse, douceur, modestie, le dévisageait avec haine. Et surtout, ce qui fut plus sensible encore à Jérôme, avec un mépris ironique pour sa défroque de forçat. Ne songeant même pas à cacher à cet être dont elle ne reconnaissait plus l'existence, elle, qu'il n'avait pu voir nue que par ruse, ses jambes et sa gorge. Bardini était tellement vexé de retrouver dans cette chambre, au lieu d'une victime de la fatalité des grandes entreprises humaines, la victime d'une plaisanterie intolérable. Il la trouvait injuste. Les femmes ont vraiment le talent pour enlever à un drame, à un supplice, son aspect généreux, et vous le reflétez en acte déloyal. Le côté farce de l'évasion, des pantalons de Coutil, le vaudeville de la valise Wilson, qu'il avait machinalement gardé à la main, l'indisposait contre lui-même. René était dos à la psyché. Tout ce que donnait la psyché était encore de l'ancienne René. Tout le dos n'était encore que tendresse, que réserve, la douce nuque, les épaules rondes. Par devant, le mal était fait. L'être docile et confiant que contenait René s'était évadé en même temps que Bardini. Il avança, d'un pas, incertain sur ses propres sentiments. Il eût aimé une dernière nuit avec elle. Il eût aimé la ramener par la volupté dans la tragédie, la faire consentir par les caresses, comme il obtenait d'elle, par un oui doucement arraché, le consentement à ses moindres exigences, aux achats d'animaux surtout, qu'elle n'aimait pas, achats d'un nouveau chien, d'un cheval, étreinte qui avait peuplé la maison d'un seul enfant, mais de 20 bêtes affectueuses, et même d'une biche. La faire consentir à son départ. D'un geste, elle lui ordonna de ne pas avancer, prit un crayon bleu, écrivit sur une feuille de papier et lui montra de loin ces quelques mots, si lisibles, alors que d'habitude elle avait une écriture de chat, lisibles comme ses souhaits de bonne année. « Va-t'en !» Il s'inclina et partit.